Comment c'est l'enregistrement? Ok. Ok, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 1 à 5. On va aller dans le Apocalypse chapitre 14, des versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix de grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Alors, on a vu un peu la semaine dernière, on a fait le début de ce sermon-là, les cinq premiers versets du chapitre 14. On va faire une révision de ce qu'on a vu de manière à ce que le tout soit cohérent. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu, faire une introduction, faire un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière de manière à ce qu'on puisse continuer notre étude. Alors, on avait donné comme titre la semaine dernière à notre leçon, à notre sermon, l'agneau et l'Église triomphante dans la gloire, un encouragement puissant à l'Église militante sur la terre. On avait divisé la section qu'on étudie en trois parties. La victoire dans la gloire est certifiée, le verset 1, c'est ce qu'on avait regardé la semaine dernière. La victoire dans la gloire est célébrée, versets 2 et 3. Et la victoire dans la gloire est caractérisée, versets 4 et 5. On avait fait la remarque au début de notre étude sur les termes Église militante et Église triomphante. On va les réviser de nouveau pour que ça soit frais dans notre mémoire. Alors, l'Église triomphante, c'est l'ensemble des authentiques croyants qui sont décédés et qui sont déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont gagné la bataille et ont fini leur course et ils attendent la résurrection finale. Il faut distinguer l'Église triomphante de l'Église militante. L'Église militante, quant à elle, c'est l'ensemble des croyants véritables qui sont encore sur la terre et qui mènent le bon combat. Ce sont ceux qui doivent encore se battre pour rester fidèles au Seigneur et à ses enseignements et rejeter toutes les séductions de Satan. Ils se doivent de persévérer jusqu'à la fin, malgré les souffrances et les difficultés. Ce qui est important de voir ici, au début de notre étude du chapitre 14, c'est vraiment l'idée que le Seigneur veut nous montrer par contraste qu'on a fini le chapitre 13, c'était un petit peu déprimant parce qu'on voyait que Satan semblait avoir des victoires importantes. Et dans le chapitre 14, on dirait que le Seigneur veut encourager son Église en leur montrant que malgré les apparences que l'Église va traverser des moments difficiles et que Satan va avoir des victoires, que la victoire finale appartient à Christ et à tous ceux qui sont des véritables et des authentiques croyants. Alors, c'est ce qu'on avait fait remarquer, plusieurs auteurs font remarquer cette même idée-là. Alors, c'est important de voir que le contraste est utilisé de manière à ce que les chrétiens voient que oui, il va y avoir des difficultés, mais que oui, aussi, en leur faisant voir l'Église triomphante, celle qui est déjà en présence de Christ, que tous ceux que Dieu a donnés à Christ pour être sauvés dans sa souveraineté vont l'être, peu importe les difficultés que le malin va chercher à faire traverser à faire traverser aux croyants. Alors, on avait regardé la semaine dernière la victoire dans la gloire qui était certifiée. On relit le verset 1 du chapitre 14. Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. Alors, quelques observations concernant cette partie-là. On sait que l'agneau, bien entendu, dans le chapitre 13, on parlait des bêtes, une qui montait de la mer, l'autre qui montait de la terre, et on en parlait comme des dragons, on en parlait comme des animaux, mais on sait que c'est quelque chose de symbolique. Alors ici, bien entendu, lorsqu'on parle de l'agneau, si on regarde dans le chapitre 13, il y a la deuxième bête avait une allure d'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Ici, ce que l'auteur du livre de l'Apocalypse veut, l'auteur qui est le Saint-Esprit, veut nous faire comprendre, c'est ici l'agneau dont on parle dans le chapitre 14, c'est l'agneau de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, bien entendu, l'identité de l'agneau est très importante à comprendre quand on lit le début du chapitre 14, et on peut le confirmer par le fait, il y aura plusieurs passages qu'on pourrait utiliser, mais Jean 1, 29 serait suffisant, qui nous dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on parle aussi dans ce passage-là de où se trouve l'agneau. On parle de la montagne de Sion. Bien entendu, il y en a qui ont interprété l'Apocalypse en disant que c'était la montagne qu'il y a à Jérusalem. Mais on croit par d'autres passages des Saintes Écritures que c'est plutôt quelque chose de symbolique et que ça représente le ciel. On se souvient, dans le psaume 2, il est très important pour faire une relation avec le chapitre qu'on est en train d'étudier, le psaume 2, versets 1 à 11, qui nous montre le Christ qui est le roi qui règne du haut des cieux. Et on va relire le passage pour que ça nous aide à faire le lien avec le passage qu'on est en train d'étudier. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, disent-ils. Et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors, il leur parlera dans sa colère, il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Et on avait vu aussi un autre passage qui confirme la même idée dans Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. » Et l'autre idée qui est dans le verset 1, c'est le nombre de personnes, le fameux 144 000, qui sont déjà en présence de l'agneau. Alors, on avait vu la semaine dernière que j'avais utilisé trois auteurs pour amener l'idée que c'est symbolique et que ça représente l'ensemble de tous les croyants de toutes les époques. Et que on avait vu l'affirmation qui avait été amenée par Paulin Bédard, aussi par le commentateur J.K. Beal, qui dans sa brique qu'il a écrit sur l'Apocalypse, dit exactement la même chose. Et on avait vu aussi également le pasteur Joel Bickey, qui disait exactement la même idée. On va reprendre uniquement celle du pasteur Joel Bickey, mais les deux autres disent sensiblement la même idée. Alors, dans celle du pasteur Bickey, je le cite. « De même, les chiffres de l'Apocalypse doivent être compris spirituellement. 12 est le nombre de l'Église. Il y a 12 patriarches d'Israël dans l'Ancien Testament. Les 12 apôtres du Nouveau Testament sont le fondement de l'Église. Et 144 000, soit 12 fois 12 fois 1000, représentent l'Église de façon complète. C'est un nombre symbolique des élus pour lesquels Christ est mort. Les 144 000 représentent la grande multitude des rachetés que personne ne peut dénombrer. » Alors ça, c'est vraiment une idée qui revient chez beaucoup de commentateurs, qu'on pourrait dire conservateurs. Alors, la deuxième idée, on était rendu là la semaine dernière, c'est vraiment que la victoire dans la gloire. Alors, le Seigneur a voulu que ceux qui étaient sur la terre, qui souffraient encore, qui subissaient des énormes pressions et des attaques très graves du malin, dans le but des égarer ou des faire taire. Alors, on avait vu que le Seigneur avait voulu qu'on voit la contrepartie, l'Église qui est déjà en présence de Jésus-Christ, pour encourager son Église. Alors, on va lire les versets 2 et 3. Donc, c'est la victoire dans la gloire qui est célébrée. Le Seigneur veut qu'on voit que tous ceux qui avaient choisi de toute éternité pour devenir, qui ont été déterminés, élus, qui sont déjà en présence et qu'il n'y a rien que l'ennemi a pu faire pour chercher à les empêcher, qu'il a pu réaliser, parce que le Seigneur veut montrer que tous ceux-là que Dieu a choisis, et que Christ a payé pour eux, que l'Esprit a régénéré, sont tous là en présence, et il est en train de vouloir leur faire comprendre l'idée, vous, peu importe ce que vous vivez sur la terre, ce qu'on cherchera à vous faire vivre, vous allez avoir la victoire finale. C'était très important pour eux de saisir cela. Alors, on va lire les versets 2 et 3, et ensuite on va faire quelques commentaires. « Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux, les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. » Alors, ce qu'on veut regarder dans le verset 2, c'est vraiment l'idée que Dieu veut leur montrer qu'il y a une célébration dans le ciel qui est vraiment grandiose. Parce qu'il utilise des termes qui sont forts. Le contraste de la célébration, c'est quand il utilise des termes comme la voix des grosses eaux et la voix d'un grand tonnerre. ça veut exprimer la majesté versus la douceur des harpes qui expriment quant à elles la mélodie et l'harmonie. D'une part, elle est puissante comme le son d'un océan qui déferle ou d'un fort coup de tonnerre. Et d'autre part, elle est douce et agréable comme le son d'un musicien jouant de la harpe. Alors, c'est important de réaliser que ce que le Seigneur veut que les siens comprennent, c'est qu'ils entendent une voix qui ressemble à la voix des grosses eaux. C'est comme une mer qui serait déchaînée. Et c'est impressionnant, c'est très, très touchant. Et celle d'un fort tonnerre. N'importe qui a un peu d'âge a dû traverser des tempêtes l'été, lorsque parfois le tonnerre est tellement fort qu'on est presque terrorisé, et des fois on l'est terrorisé. C'est fort, là, ça nous secoue, comme on dit. Et en même temps, ils entendent une voix de joueur de harpe qui touche la... Alors, la harpe, c'est la douceur même, l'harmonie, alors que la voix des grosses eaux et la voix du grand tonnerre, c'est vraiment quelque chose... C'est contrasté, mais en même temps, c'est qu'ils veulent... Le Seigneur veut montrer aux siens l'aspect de majestueux de sa personne, et aussi l'aspect mélodieux et harmonieux de sa personne. Il y a les deux aspects. Comme quand la Bible dit « considérer la bonté et la sévérité de Dieu ». Alors, on voit dans le verset 3, première partie du verset 3, que non seulement ces 144 000-là, donc l'ensemble des élus, toutes les époques de tous les temps, sont déjà en présence de Dieu, et ça nous dit qu'est-ce qu'ils font. Et il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens. Alors on voit que les chanteurs et les musiciens se tiennent à la place d'honneur devant le trône. Et on apprend aussi dans la deuxième partie du verset 3 que c'est une célébration qui va être exclusive. Dans le sens que ça nous dit que personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Autrement dit, c'est un chant qui est réservé uniquement aux élus de Dieu, ceux qui ont été déclarés par Dieu souverainement comme étant en méritant du salut. Et il n'y a personne qui va manquer à l'appel. Alors, c'est très important de réaliser cela. Alors, le cantique, quand on dit qu'il est réservé exclusivement aux rachetés, pour une bonne raison, car seuls ceux qui ont été rachetés connaissent qu'est-ce que c'est que la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Et seules ces personnes-là peuvent en comprendre toute la profondeur, toute la richesse et toute la sagesse. Alors, ceux qui vont chanter, c'est parce qu'ils ont expérimenter qu'est-ce que c'est la grâce souveraine de Dieu et qu'ils en comprennent toute l'ampleur, toute la beauté, toute la profondeur. Alors, bien entendu, quand on dit que personne ne pouvait apprendre, c'est pas parce que les êtres humains ne sont pas capables d'apprendre, c'est juste que c'est des choses que, pour pouvoir parler et chanter les gloires de Christ et la grâce de Christ, et il faut que tu l'aies expérimenté, sinon tu ne comprends pas vraiment. Alors c'est ça que je pense que le texte veut nous apprendre. La troisième idée qu'on regarde, c'est vraiment celle de la victoire dans la gloire qui est caractérisée. Alors, je pense que ce que ça veut nous montrer, c'est un petit peu les caractéristiques des personnes qui font partie des 144 000. Ils ont certaines caractéristiques entre eux qui les distinguent des pécheurs sur la terre qui ont donné leur vie, qui se sont laissés mener par le péché et qui n'ont pas obéi et voulu utiliser les Écritures comme leur guide et qui n'ont pas cru en Christ, qui n'ont pas cru en Dieu. Très important de voir que ces personnes-là au ciel, Dieu veut que l'Église militante, les chrétiens qui sont sur la terre, comprennent que ceux qui sont au ciel ont des caractéristiques particulières. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé le troisième point, la victoire dans la gloire est caractérisée, elle a des caractéristiques. Les croyants qui sont déjà en la présence de Dieu ont certaines caractéristiques. Alors, on sait que le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures qu'il connaît tous les siens par leur nom. Très rassurant. Alors, les rachetés sont caractérisés par quatre choses. On va les regarder une à une. Et on va se rendre compte que, dans le fond, quand quelqu'un se dit croyant, il faut que l'authenticité de sa foi se manifeste dans sa vie de tous les jours par certaines caractéristiques, dont la première, la pureté. Ça dit, ce sont, en parlant des 144 000, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. C'est sûr qu'à première vue, ça peut paraître un petit peu bizarre, cette tournure de phrase-là, mais il faut toujours replacer les choses dans le vocabulaire des Écritures et dans ce qui a été dit précédemment sur le même sujet. Alors, ce qu'on fait ici, on veut faire une remarque très importante, c'est qu'on rejette l'interprétation qui est erronée, celle que les catholiques romains ont voulu avancer et maintenir au cours des siècles, celle du célibat, qui est proposé par, justement, le catholicisme romain. Et eux voulaient voir là-dedans ceux qui avaient entré en communauté ou qui étaient devenus des prêtres et qui avaient renoncé volontairement au mariage et à la sexualité. Beaucoup de commentateurs catholiques sont allés dans cette direction-là. Mais on ne peut pas l'accepter pour une simple et bonne raison, c'est que ça serait contredire les Saintes Écritures qui utilisent souvent la métaphore du mariage pour représenter la relation qui existe entre le Christ et son Église, que dans les Écritures on appelle son épouse. Alors la Bible a toujours présenté le mariage comme étant quelque chose d'honorable et de désirable, et cette idée de vouloir présenter les 144 000 comme étant les communautés religieuses ou les prêtres qui ont renoncé à leur sexualité et renoncé au mariage, ça ne tient pas la route, comme on dit. Alors, on le voit par certains passages du Nouveau Testament, que cette idée-là, dans 2 Corinthiens, par exemple, au chapitre 11, au verset 2, on lit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. » Alors, voyez-vous, ici, il utilise la personne de Christ comme étant l'époux, et il utilise aussi, l'image de la vierge comme étant le peuple de Dieu qui est marié, en quelque sorte, à Christ. Alors, c'est vraiment d'aller dans des mauvaises directions que de vouloir donner l'interprétation catholique dont on a parlé il y a quelques minutes. Il y a un autre aussi passage dans 1 Jean, chapitre 5, verset 21. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Alors, on veut comprendre la première caractéristique, c'est que les purs, ce sont ceux qui ont voulu, qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont voulu modeler leur vie en fonction des Écritures, qui se sont éloignés du péché, se sont repentis. Et quand on dit la pureté, c'est vraiment l'idée fondamentale que le fil conducteur de leur vie a été la sanctification, la purification et s'éloigner du péché. La deuxième chose que les Écritures veulent nous présenter comme étant une caractéristique des 144 000, c'est celle de la réalité de suivre Christ. Dans la deuxième partie du verset 4, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Alors, si on prend les quatre évangiles puis qu'on regarde la vie de Jésus, partout où Jésus a été, partout où la manière dont les païens l'ont traité, la communauté religieuse juive de l'époque l'a traité, Jésus nous a toujours averti que de la même manière qu'ils ont traité le maître, ils vont traiter aussi ses disciples. Alors, étant des véritables disciples, ceux qui sont des véritables authentiques croyants, vont connaître des difficultés du même ordre que celles que le Seigneur nous l'a dit, nous a averti de ça. Alors, ça dit qu'on suit Christ. Donc, si on suit Christ, ça implique qu'on connaisse des expériences qui vont ressembler à celles que Christ a connues. Quoique on connaîtra jamais des expériences aussi profondes et aussi souffrantes que celles de Christ, mais il reste que pour nous, ça peut être très souffrant également. Alors, le Christ lui-même dit que ses véritables brebis le suivent. Et si on peut aller dans Jean, au chapitre 10, les versets 26 à 29, où on a vraiment cette idée-là de suivre Christ. Jean 10, versets 26 à 29. « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alors ici, dans le verset 27, très important, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Alors, cette idée que ceux qui sont déjà au ciel ont eu des vies qui ont démontré qu'ils ont suivi Christ dans leur vie terrestre. La troisième idée, c'est vraiment celle de la candeur, de l'honnêteté, de la transparence et de la simplicité dans la première partie du verset 5. « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. » Alors, c'est toutes des choses qui se tournent autour de l'honnêteté. Alors, ça dit, dans 1 Jean, chapitre 2, versets 21 et 22, on a vraiment l'idée de la vérité de la doctrine. Quand on dit, il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, alors ça implique que ce qu'on a enseigné doctrinalement concernant Dieu, concernant le Saint-Esprit, concernant Jésus-Christ et concernant l'ensemble des enseignements qui sont donnés dans la Bible, on s'est servi de notre bouche pour convaincre les autres que c'est la vérité, que c'est important, que ça implique même leur destinée éternelle. 1 Jean chapitre 2, versets 21 et 22. « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. » Bien entendu, on pourrait aller très loin dans le développement de ce verset-là, mais ce qui est vraiment l'idée fondamentale, je pense que c'est les véritables croyants ont toujours été des défenseurs de la vérité doctrinale dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions et dans toutes les époques. Alors, ceux qui sont déjà en présence, c'est des personnes qui ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. Et l'autre idée aussi, dans 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3, « Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. » Alors, quand on regarde les épîtres de Jean, qui ont été écrits dans le premier siècle, et il nous disait que déjà, l'esprit de l'Antichrist était présent à cette époque-là. On est rendu au 21e siècle. Est-ce que durant tous les siècles, entre le 1er et le 21e siècle, l'esprit de l'Antichrist était là? Bien sûr. Alors, c'est sûr. Alors, à ce moment-là, la vérité qui concerne la personne de Jésus-Christ est extrêmement important. Alors, 1 Jean, chapitre 4, verset 2 et 3, c'est vraiment que c'est l'esprit de l'Antichrist qui nie que le Christ est venu en chair. C'est très important de réaliser cela. Dans les versets, la quatrième chose qui sont caractérisées, qui caractérise les 144 000, ça nous dit, dans la deuxième partie du verset 5, « Car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » Sur cette terre, personne n'est plus conscient de ses imperfections qu'un véritable croyant, un véritable chrétien. Parce que le véritable chrétien va toujours être attristé toutes les fois qu'il pêche, involontairement ou par faiblesse, mais il continue à croire que Christ a payé pour tous ses péchés sans exception. Et il va confesser ses fautes de façon régulière et il va se repentir. Donc, se repentir, ça implique qu'il se détourne de son péché, il abandonne son péché le plus qu'il peut, il prie le Seigneur de lui donner toutes les forces nécessaires pour être capable de le faire. Et il va constamment travailler à sa sanctification et il va continuellement chercher à se rapprocher du Seigneur. Et autre chose, il va utiliser de façon très abondante tous les moyens de grâce et il va persévérer malgré les souffrances et malgré les innombrables difficultés qu'il va connaître dans sa vie chrétienne. Alors, on est rendu à faire une application de l'étude qu'on a fait, une application, c'est-à-dire après avoir entendu ce qu'on a entendu, avoir appris ce qu'on a appris, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours? Est-ce que ça va contribuer à me rapprocher du Seigneur, à m'éloigner du péché, à me purifier davantage, à me sanctifier davantage? Alors, quand on parle d'une application, c'est toujours, après avoir entendu un sermon, de se poser la question, comment ce que je viens d'entendre là va contribuer à me purifier, à me sanctifier, à me rapprocher de Dieu et à mieux le connaître, à mieux l'aimer, à mieux le servir. Alors, la première application que je vois dans le texte d'aujourd'hui qu'on vient d'étudier, alors je dirais tout simplement, levons constamment les yeux vers le ciel. C'est ce que le Seigneur est en train de vouloir montrer au peuple du premier siècle, à l'époque où ça a été écrit par l'apôtre Jean. Il veut, après avoir fait connaître aux siens qu'ils connaîtraient des moments difficiles historiquement, à leur époque, et dans toutes les époques, les chrétiens ont connu des périodes extrêmement difficiles. Mais je pense que l'idée fondamentale, c'est lever les yeux vers le ciel et sachez que peu importe ce que le malin cherchera à faire dans le but de vous éloigner ou dans le but de... Lui, s'il était capable, il nous ferait perdre notre salut. Mais on le sait que les Écritures nous disent que quand on a véritablement reçu le salut de Dieu, le salut souverain de Dieu, c'est quelque chose de définitif, d'irréversible et que ça ne se perd pas. Alors, levons les yeux constamment vers le ciel, ça veut dire que peu importe les difficultés qu'on vit, il faut toujours se rappeler qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui, au cours des siècles, ont traversé des difficultés similaires aux nôtres ou pires que les nôtres, et qu'ils sont déjà en la présence de Dieu et qu'ils jouissent déjà de la félicité divine. Alors, nous verrons ainsi, en levant constamment les yeux vers le ciel, que nous sommes absolument assurés de la victoire finale. C'est quelque chose d'extrêmement rassurant quand on vit des difficultés énormes et qu'on a peur d'être infidèle, advenant qu'il arrive des choses, disons, qui voudraient nous emprisonner, voudraient nous... toutes les choses que les hommes peuvent faire à d'autres hommes. Si on a toujours peur de notre propre faiblesse, Mais il faut toujours se rappeler que le Seigneur va toujours être avec nous et il va toujours nous donner la force nécessaire pour être capable de traverser les difficultés à mesure qu'on va les rencontrer. Alors, n'oublions jamais que Jésus-Christ nous connaît tous par nos noms et qu'aucun de ceux qu'il a donnés à Christ ne sera perdu, peu importe les circonstances difficiles qui pourraient se manifester sur notre route. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Que le Seigneur soit béni, loué et adoré pour sa grâce d'une infinie solidité. Donc, premier point, si déjà on prend cette idée-là et on l'applique dans nos vies, on a déjà quelque chose de solidement établi dans notre vie spirituelle. Deuxième application, dès cette terre, nous pouvons commencer à se réjouir et à profiter de notre futur triomphe. Alors, manifestons notre gratitude avec la puissance de l'océan, l'harmonie du chant, des cantiques et de la musique qui honore notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, dès cette terre, on peut commencer à faire des choses qui sont similaires à ceux qui sont déjà au ciel. Le chant et la fidélité, les cantiques, la musique et tout ce qui peut honorer les louanges qu'on donne à Dieu. Sur cette terre, on peut déjà en faire des louanges à Dieu. Ceux qui sont dans l'Église triomphante, bien, eux, ils ont éliminé le côté souffrant de tout cela. Troisième idée, troisième application, que l'authenticité de notre conversion spirituelle soit perçue de tous. Autrement dit, si les Écritures nous donnent les caractéristiques des 144 000, c'est qu'elle est en train de nous enseigner que tous ceux qui sont des véritables croyants se devraient de manifester des caractéristiques qui soient similaires. Donc, les gens de l'extérieur qui nous voient comme chrétiens se devraient de remarquer les choses qu'on a parlé tantôt, les quatre caractéristiques des véritables croyants. Alors, ce qu'on se doit de faire, bien entendu, c'est d'intercéder constamment au trône de la grâce pour une vie. Demander à Dieu qu'il nous donne de vivre une vie qui nous fasse ressembler davantage à Jésus-Christ, de plus en plus et de mieux en mieux, à chaque jour, pour sa plus grande gloire. Alors que le Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.